Didier Barbelivien sur Europe 1. Dis-moi ce que tu chantes.
Il y a des écrivains qui sont musiciens sans le savoir. Celui-là, je ne l'ai pas croisé dans une librairie ou dans une salle de concert, mais dans un restaurant italien de la rive droite à Paris. La pudeur ou la timidité font que souvent, on n'ose pas dire nos admirations, on a tort. On se prive d'une rencontre et de moments privilégiés. Alors j'ai franchi le pas, j'ai abordé cet homme qui me semblait enclin à la gourmandise et j'ai tellement d'indulgence pour ce vilain défaut. Bien m'en a pris, je connaissais beaucoup de ses romans, bien sûr, 1941, Étranger dans la nuit, entre autres. Je me suis dit qu'un écrivain qui empruntait le titre d'une chanson de Sinatra devait avoir un sérieux penchant pour la musique en général. J'ai d'ailleurs eu la surprise de découvrir un jour en exergue d'un de ses livres un extrait de ma chanson « Paul le clochard ». C'est le choix d'un auditeur averti parce que peu de gens la connaissent. Si je vous dis aussi qu'il est sorti de l'ENA, qu'il est journaliste au Point et au Figaro Madame, qu'il est même académicien depuis 2014, il n'est pas sûr que vous l'ayez identifié tellement il traverse la vie dans un manteau de discrétion, quelquefois enroulé dans une écharpe d'adolescence qu'il n'a jamais vraiment quittée. C'est donc sans ses palmes académiques, mais avec une complicité pudique et fraternelle, que j'accueille aujourd'hui en votre nom, sur l'antenne d'Europe 1, un des écrivains les plus délicieux de la littérature française, comme aurait dit Jean d'Ormesson, Monsieur Marc Lambron. Marc Lambron, bonjour.
Bonjour. Non, je t'ai plus, j'ai tous les défauts. Mais c'est dit avec beaucoup d'indulgence, donc j'en sais gré.
Non, c'est...
À mon hôte du jour.
Non, c'est vrai, je n'aime pas... tu sais, c'est une émission, je dis toujours, le premier truc qui me vient à l'esprit quand je pense à cette émission, c'est qu'on y dit la vérité. Voilà.
Oui,
et, moi, quand j'aime les gens, je le dis. J'ai pas de honte, j'ai pas de pudeur, j'ai pas de retenue, on va me dire, ah bah oui, mais nanana, il reçoit ses copains. Non, c'est pas forcément des copains. Moi, ça fait combien de temps que je t'ai pas vu, là?
Bah, Covid, trois ans. Mais comme je suis calculateur, c'est vrai que si j'ai mis un de tes textes en exergue dans un livre de 2008, c'est que je prévoyais 2022. Et ça a marché. Donc, je suis ravi d'être à ton micro.
Vous voyez, on peut être académicien de l'Académie française, puisque malgré tout, il n'y a que celle-là, et avoir quand même un humour bien affûté.
J'observe d'ailleurs que dans le studio, on m'a servi un thé vert. Et le vert, c'est pas seulement l'écologie, la couleur académique.
Mais bien sûr, Marc,
tout est parfait.
T'as une veste, puisqu'on en est aux couleurs.
Oui.
Et qu'on est à la radio.
Oui.
Il n'y a pas de raison qu'on dise pas tout.
Oui. Alors,
t'as une chemise tendance années 60 avec des.
Avec des rayures. J'ai une chemise un peu bande du drugstore. Un peu Ronnie Bird, peut-être.
Ronnie Bird, j'aime énormément.
Voilà, j'ai quoi? Une veste, on peut dire fraise écrasée. Ou framboise.
Ouais. Framboise.
Voilà.
En fait, c'est très élégant. Mais tu sais, il va en être question à un moment dans l'émission, mais je n'ai connu que des académiciens élégants. Tu vas me dire, je ne les connais pas tous.
Oui.
Jean-Marie Rouard, quand même.
Oui, que je quitte à l'instant.
Tu vois.
Tout à fait, oui. Ben, c'est le côté rive droite du Figaro, mais hier j'étais en sneakers, par exemple, pour employer un mot anglais.
Mm-hmm.
Donc on peut varier les apparences et être polymorphe et avoir plusieurs défroques. C'est comme la musique d'ailleurs, on peut avoir plusieurs goûts, parce que j'aime beaucoup le rock, j'aime beaucoup la musique classique, j'aime beaucoup le jazz, mais aujourd'hui, nous sommes devant un programme de musique française. De chansons françaises.
Ouais, et je sais que tu aimes ça aussi.
Aussi.
Et on va s'y jeter tout de suite, ton premier choix, que j'adore, mais j'aime tout ton choix, mais on va le découvrir. Mais c'est pour prévenir nos auditeurs. Il y a vraiment un choix de chansons assez magique. Le premier, Le Palais de nos Chimères, Charles Aznavour.
Ah.
Nous nous sommes mariés par un jour de printemps, sans prêtre, sans mairie, sans amis ni parents. Nous n'avions tout au plus, elle et moi, que 20 ans, mais un désir d'adulte brûlait nos cœurs d'enfants. L'amour en une nuit émancipa nos cœurs, nous étions enlacés, tout honte de bonheur. Dans nos yeux agrandis ne passait nulle peur, car la jeunesse rit quand l'enfance se meurt. Le palais de nos chimères, nous l'avions bâti sur l'horizon. Et nous ceinturions la terre, elle et moi, comme des vagabonds pour s'abreuver à la source de l'amour, cet éternel printemps. Nous nous partagions la mousse du château de la rose des vents. À présent je suis seul, je marche toujours, mais quand je sentirai venir mon dernier jour, sur la tombe où déjà repose mon amour heureux, j'irai m'étendre et mourir à mon tour. Et sous la même croix, nos deux corps dormiront, nos yeux seront cernés par le même horizon, et de la même terre, nos bouches s'empliront quand pour l'éternité, nos âmes s'uniront. Le palais de nos chimères a croulé avec mes illusions, et sous le poids de ces pierres se lézarde un cœur de vagabond. Mon passé qui me domine me pousse à errer par tous les temps et dormir parmi les ruines du château de la Rose des Vents.
Charles Aznavour, Le Palais de nos Chimères, c'est une des chansons pas les plus connues, mais sûrement une des plus sensibles de Charles.
Ouais, je suis toujours très ému quand j'entends Charles Aznavour, parce que pour moi, c'est l'homme de la disgrâce surmontée. C'est-à-dire, c'est le petit mec qui, d'ailleurs, souvent chante des échecs.
C'est vrai, il a chanté que des échecs.
Ou des espoirs déçus. On est dans la bohème et on attend un futur, mais qui ne va pas forcément... Bon, ou des hommes plaqués, bon. Et en même temps, il triomphe comme artiste en chantant l'échec. Alors pour moi, c'est aussi des strates, parce qu'au fond, une vie avec un chanteur, avec un artiste, ce sont des moments. Et j'en ai au moins quatre. J'ai quatre moments à Aznavour. Le premier, en 66, je suis un petit Lyonnais, j'ai 9 ans, et mes parents reviennent du music hall local, l'Olympia local, qui s'appelait le Palais d'Hiver, qui était dirigé par un certain Roger Lamour, ce qui est un joli nom, et ils me disent « on a vu Charles Aznavour ». Donc pour moi, Charles Aznavour, c'est d'abord un nom un peu de loin, comme ça, mais de quelqu'un que mes parents voient à ce moment-là. Bien plus tard, on m'envoie l'interroger pour un entretien. Et il me reçoit aux éditions Raoul Breton, qu'il avait racheté, avec son acolyte de toujours, Levon Sayan. Et bon, on m'octroyait, mettons, je ne sais pas, trois quarts d'heure ou une heure d'entretien, et ça dure 2h30. Et donc, cet homme qui est souvent en avance d'un demi-temps dans ses chansons,
c'est juste.
Là, il me donne, il a la largesse, la générosité de la conversation à la française. À peu près à la même époque, je vais le voir, d'ailleurs, au Palais des Congrès, je ne l'avais jamais vu sur scène, donc je reboucle avec la mémoire de mes parents, en quelque sorte. Et puis, dernière incarnation, c'est en 2017, toujours à Lyon, où chaque année, il y a un festival Lumière, organisé par Thierry Frémaux, qui honore un grand cinéaste ou un grand acteur. Scorsese est venu, Coppola est venu, Catherine Deneuve, bon. Et Charles Aznavour est là. Je me souviens, il portait un blouson en cuir avec deux aigles, pas sur le dos, comme dans la chanson d'Edith Piaf, de Salomé Piaf, mais pas très loin. Et on tourne chaque année, le cinéaste invité, la sortie des usines Lumière, à l'endroit même où le premier film a été tourné. Donc il y a une cinquantaine de figurants qui sont les invités. Et donc Charles Aznavour tourne dans la sortie des usines Lumière de Wong Kar-wai. Et il y a la foule qui est là, qui est massée derrière des barrières. Et des jeunes femmes entonnaient « Emmenez-moi » a cappella au passage de Charles Aznavour. Voilà quelques images. Et voilà ce que j'ai trouvé dans le palais de ces chimères.
Et qu'est-ce qu'il était pour toi, adolescent lyonnais, le palais de tes chimères?
Alors, c'était le palais d'hiver où
était où?
Alors, Aznavour, pour moi, assez vite, je l'entends, je dirais, c'est peut-être pas la meilleure façon, mais par la voix américaine. C'est-à-dire, c'est l'homme qui, quand Sinatra vient chanter à Paris, je ne sais plus si c'est en 59 ou 60, on a un disque, et c'est lui qui introduit Sinatra.
Ouais.
Et au fond... C'est un des chanteurs français.
Il y a une filiation,
la filiation du crooner, la présence du jazz. Le fait qu'il a fait une carrière américaine, notamment on l'a vu chanter avec Liza Minnelli.
Oui, et puis ses chansons, existaient aux États-Unis.
Et ses chansons ont existé.
Yesterday When I Was Young, qui est l'adaptation de Hier Encore.
Hier Encore, un peu comme Trainet au fond.
Oui,
comme,
oui. D'ailleurs, c'est merveilleux, les trois de chez Breton, Becco, Aznavour, Trainet.
What Now My Love, ouais, et maintenant
bien sûr, ont eu leur chanson, mais pas... Enfin, tu es allé aux États-Unis, je suppose, quelques fois. Ce n'est pas des petits succès qu'ils ont fait là-bas.
Alors, la mer,
des chansons de fous.
La mer, c'est énorme.
La mer, c'est énorme.
Bien sûr. Oui, oui. Et même Claude François et
Revaux, Jacques Revaux.
My Way.
Et Gilles Thibault, l'auteur.
Et donc, il y a une époque où des chansons françaises, peut-être qu'on trouve ça maintenant, c'est très différent avec Daft Punk, par exemple. Il y a quand même une mondialisation d'une certaine touche française. Mais Aznavour, bon, quel roi au fond, quel homme, quelle splendeur dans ce qu'il avait de touchant.
Et toi, tu l'as admiré toute ta vie ou toute ta jeunesse très tôt?
Très tôt, parce que ce que j'entendais dans ses chansons, c'était ça, c'est que oui, une disgrâce peut être surmontée. C'est ce petit Arménien qui se fait refaire le nez assez vite, qui se modifie et qui écrit des chansons. Il est quand même auteur-compositeur et interprète.
Très souvent, auteur-compositeur-interprète.
Qui viennent, c'est des chansons d'expérience.
Oui, et puis, tu ne trouves pas qu'il était... C'est drôle d'ailleurs, parce que je me faisais cette réflexion il n'y a pas longtemps, et quand j'étais ado, non, je n'y pensais pas. Il traduisait une certaine désillusion qu'on aime bien à l'adolescence, un peu de masochisme quand on se fait jeter par les filles et tout ça. Elle ne reviendra pas, tout ça, le côté, la main, tu vois. On fait les romantiques au fond des parcs, là, très malheureux, très blessé.
Oui, ça, c'est l'anticipation inquiète des parties qu'on va perdre.
Exactement.
Et puis, on ne les perd pas forcément.
Non.
Mais il balise le terrain, en quelque sorte. Il nous dit que... Et puis, c'est tout ça est très, très, très humain, très senti.
Parce qu'il regarde des phrases, quand même. Hein.
Et avec une tristesse aussi. Hein. Il y a quelque chose, quand
oui,
même.
Car la jeunesse rit quand l'enfance se meurt.
Voilà. Ah oui, alors c'est un très bon... Et alors, ce qui m'a aussi intrigué chez Aznavour, c'est que c'est un façonnier musical, et on le sait ou on ne le sait pas, mais il connecte avec la génération yéyé.
En plus,
évidemment, alors avec son beau-frère Garvarentz.
Oui.
Et Retiens la nuit, c'est Aznavour, Garvarentz.
C'est vrai.
Et La plus belle pour aller danser,
c'est aussi.
C'est Aznavour, Garvarentz. Donc c'est assez amusant de penser aussi qu'il est derrière Johnny Hallyday, Sylvie Vartan,
bien sûr.
Vers 62-63. Au moment où arrive une vague musicale dont on aurait pu penser qu'elle allait le balayer.
Il s'adapte.
C'est un survivant. Il y a une plasticité, une intelligence musicale d'Aznavour.
Vous comprenez, chers auditeurs, ce que c'est que la vraie culture d'un académicien pour la chanson française? Parce que tu me fascines, là, tu me plais.
Non, mais je
vois que tu sais.
Ah bah, c'est très important.
Mais c'est important.
Bien sûr.
Donc Marc Lambron, mesdames et messieurs.
Depuis le Moyen-Âge, hein, quand il y avait des luttes et des théorbes à la cour du roi, déjà on chantait et nous avons encore des vieilles chansons.
C'est une émission qui est bien partie. On te retrouve dans quelques instants pour ton deuxième choix.
Didier Barbelivien sur Europe 1. Europe 1, dis-moi ce que tu chantes. Par Didier Barbelivien.
Deuxième choix de mon invité d'aujourd'hui, Monsieur Marc Lambron, et celle-là aussi, je l'aime. De toute façon, je l'ai dit en début d'émission, il n'y en a pas une que je n'aime pas. Jean Ferrat, c'est si peu dire que je t'aime.
Comme une étoffe déchirée, on vit ensemble, séparés. Dans mes bras, je te tiens absente. Et la blessure de durer, faut-il si profond qu'on la sente, quand le ciel nous aime mesurer. C'est si peu dire que je t'aime. Cette existence est un adieu, et tous les deux nous n'avons Dieu que pour la lumière qui baisse. chaussé des bottes de 7 lieues, en se disant que rien ne presse, voilà ce que c'est qu'être vieux. C'est si peu dire que je t'aime. C'est comme si jamais, jamais, je n'avais dit que je t'aimais, si je craignais que me surprenne la nuit sur ma gorge qui met ses doigts gantés de souveraine, quand plus jamais ce n'est le même. C'est si peu dire que je t'aime. Lorsque les choses plus ne sont qu'un souvenir de leur frisson, un écho de musique morte, demeure la douleur du son qui plus s'éteint que plus devient forte. C'est peu des mots pour la chanson. C'est si peu dire que je t'aime. Et je n'aurais dit que je t'aime.
Un choix de Monsieur Marc Lambron, Jean Ferrat, c'est si peu dire que je t'aime, et on peut dire qu'il y a tout là-dedans. Les paroles d'Aragon, la musique de Ferrat, la voix de Jean Ferrat sublime, l'arrangement d'Alain Goraguer, c'est bien, c'est ce qu'on appelle le quartet dans l'ordre.
La nuit qui sur ma gorge met ses doigts gantés de souveraine. Oui. Alors ça, c'est magnifique.
C'est beau. Hein.
C'est magnifique. Alors oui, c'est une chanson qui me fait penser que peut-être il y a eu un temps un peu estompé aujourd'hui, où les poètes peut-être étaient plus mis en musique. Enfin, Brassens qui va chercher Paul Fort, en effet, Aragon, Ferrat, Prévert qui écrit des chansons. Plus récemment, Étienne Dao a mis en musique
Jean Genet.
Jean Genet avec Jacques Moreau. Mais là, pour moi, c'est les années 60 ou la fin des années 60.
C'est ça, c'est même le milieu, mais de toute façon, Ferrat...
C'est le disque sort en 71, non, mais, oui. Mais il récapitule, enfin, il reprend voilà. Des chansons qui sont
exactement.
Déjà sorties. Et alors, pardon, parce que je vais faire une émission un peu personnelle, mais pour moi, les chansons, c'est un peu comme autrefois, les têtes de lecture, les pick-up sur un 45 ou un 33 tours. Et le 33 tours, c'est la vie de chacun d'entre nous.
Ouais.
Et j'avais un grand-père communiste. Grand-père maternel qui était ouvrier dans une petite ville proche de Nevers qui s'appelle Infi, une ville de sidérurgie. J'avais 20 ans quand il est mort, donc j'ai largement eu le temps de le connaître. Je passais 15 jours ou 3 semaines pendant les mois de juillet chez lui. Et j'ai su, je sais encore ce qu'a été ce qui a disparu aujourd'hui, c'est-à-dire cette grande culture communiste. Il n'était pas membre du parti, mais enfin il avait fait des grèves de 36. Il n'a pas beaucoup aimé le régime de Vichy, il s'y est même opposé. Et il y avait cette chose magnifique, quand un de leurs camarades mourait, il n'entrait pas à l'église pour les obsèques, mais il restait debout pendant toute la cérémonie sur le parvis, en attendant. Voilà. Et pour moi, il lisait L'Humanité dimanche, j'avais 8-9 ans, je lisais L'Humanité dimanche chez lui. Et cette musique, la musique de Jean Ferrat, du Jean Ferrat de cette époque-là, évidemment, me dit quelque chose avec d'ailleurs ce qu'elle a un peu de Sylvestre. Moi, dans les arrangements de Goraguer, j'entends aussi qu'il fait chanter, les bois précisément.
Oui, oui, oui. Oui. C'était que, pas courant, tu sais, à l'époque. Hein.
Non. Il y a une couleur, il y a vraiment un chromatisme presque qui enrobe la poésie d'Aragon. Et voilà. Et Aragon, je l'ai vu deux fois, je l'ai aperçu deux fois dans ma vie. C'est assez mémorable dans les années 70. Et voilà, c'est étrange d'être maintenant en 2022 et de se dire que j'ai vu ce vieil homme qui était ce poète génial, ce paysan de Paris.
Tiens, je vais peut-être t'apprendre une anecdote. Tu sais qu'il détestait le verre ? Tu savais ça ?
Qui ? Aragon ?
Aragon. J'ai eu l'occasion de déjeuner un jour avec lui. Il refusait le petit pois, la salade, le haricot vert.
Ah, parce que, attends, j'ai entendu le vert, V-E-R-S. Alors,
non.
Pour un poète, non. Non.
Mais le vert, V-E-R-T.
Ah, le V-E-R-T. Alors ça, je ne savais pas.
Ouais.
Cela dit, quand il écrit dans les années 20, quand il est en période surréaliste, d'explosion surréaliste, précisément, il déstructure, il n'écrit pas en vers. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la guerre. Le fait qu'il devient le poète de la résistance, techniquement, et comme par référence historique, il retrouve précisément la tradition du vers de la Renaissance, et il se met à écrire ses poésies qui ensuite vont devenir des poésies d'amour après la guerre.
Qu'on retrouve dans le fou d'Elsa.
Alors le fou d'Elsa, c'est aussi l'Andalousie, parce que ce fou d'Elsa, c'est aussi un poète arabe médiéval qu'il met en scène de manière fantasmatique. Mais il y a ça aussi, c'est quelqu'un qui, en partant d'une révolte brute, qui est celle des surréalistes, retrouve à un moment le cours, la grande tradition du vers et de la poésie française.
Et il est très étonnant, Aragon, parce que, et Ferrat réunit les deux, parce que je ne suis pas sûr à l'origine que ce soit le titre exact de ce poème. Je me suis rendu compte que dans une chanson qui s'appelle « J'entends, j'entends
oui. »,
Ferrat coupe,
oui.
Il prend des bouts,
oui.
Et il prend les plus belles strophes, et il construit sa chanson comme ça. Mais celle qui m'a étonné, ce qui m'a étonné là-dedans, c'est le titre. On te dit, c'est si peu dire que je t'aime. Tu dis, ça y est, je vais entendre une chanson d'amour déchirante, une déclaration.
Oui.
Pas du tout, c'est une rupture. C'est une chanson qui raconte la rupture.
Oui. Qui raconte en tout cas, oui, ce que la nuit peut apporter de brisure dans un couple. Enfin, oui, c'est un effet. Mais ça, c'est l'ambiguïté aragonienne, y compris avec Elsa, d'ailleurs. Hein, tout ça n'a pas été simple. Et dans la biographie d'Aragon, il y a cette chose étonnante, qui est qu'après la mort d'Elsa, en 70, il revient au garçon.
Oui.
Qui était son goût caché de jeunesse. Et finalement, le révolté dada ou surréaliste devient cette sorte de vieil homme indigne, enfin je vais le dire de manière, positive.
Oui,
je l'ai vu, une apparition d'Aragon, vraiment comme moi pour une apparition.
Avec son chapeau.
C'est en 77, Festival d'Avignon, son ancien secrétaire Antoine Vitesse montait un spectacle, et je suis à l'entrée d'un cloître où avait lieu ce spectacle, et je vois, il est assez grand, hein, je vois un homme habillé en lin blanc.
C'est ça. J'ai cette image aussi.
Avec un chapeau, en effet, une sorte de Panama, étrangement portant une montre en sautoir, avec au bout d'une chaînette de dorée. Et je me tourne, et là, il y avait trois jeunes gens en cuir noir total. Donc, des personnages de l'équipée sauvage. En compagnie du poète. Alors un peu comme dans Cocteau, avec les motards fatales. Et c'était une vision saisissante, parce qu'il y avait comme une théâtralisation dans la foule un peu babacool, il faut bien dire, en 77 du Festival d'Avignon, que cette apparition absolument stylée du vieil Aragon. Et il est mort en décembre 82, donc 5 ans plus tard.
Et puis, quand même, cette force d'écriture, parce qu'on aurait pu considérer que c'était de la chansonnette, mais c'est d'une force terrible, des poèmes d'Aragon.
Et c'est d'une force jaillissante. Mais il stupéfiait ses écrivains, ses amis écrivains comme Aragon ou Drieux. D'ailleurs, on le voit très bien. Quand vous allez voir les manuscrits d'Aragon à la bibliothèque Jacques Doucet, il n'y a pas une rature. Donc c'est vraiment un écrivain du jaillissement. Dans la littérature française, finalement, il y a les écrivains comme ça du flux, de la source, je dirais, Saint-Simon, Rimbaud, Aragon. Mm-hmm. Et puis il y a les écrivains de l'atelier, de l'écritoire, de la souffrance, Flaubert étant le chef de file.
Celui qui veut tout faire passer par le gueuloir.
Par le gueuloir et par l'écriture et par les... Voilà. Et Proust serait entre les deux, parce que Proust, il y a des jaillissements, mais il y a aussi beaucoup de ce qu'il appelait ses paproles, c'est-à-dire ces notules qu'il agrafait ou qu'il ajoutait au manuscrit principal.
Parce que regarde, des phrases pareilles. Je suis toujours un client, hein, j'aime ça les formules quand les auteurs nous sortent des trucs comme ça. Chausser des bottes de 7 lieues en se disant que rien ne presse, voilà ce que c'est qu'être vieux.
Voilà.
Faut oser une affirmation pareille.
Enfin. Ah ben, y a un effet de rapprochement, de collision, de sidération qui naît précisément du fait qu'on prend les bottes de 7 lieues, très bien. Alors là, on est en effet dans le conte populaire. Et ensuite, on va si vite et si clairement, parce que c'est un français extrêmement translucide, qu'on obtient une sorte de compression lumineuse.
C'est génial. Ah, franchement, il
très grand poète, Aragon.
Il a des formules. Et je te disais tout à l'heure, en l'écoutant, la dentelle de l'expression, lorsque les choses plus ne sont qu'un souvenir de leur frisson. Et il revient à l'inversion, un peu comme dans les ballades moyenâgeuses.
Absolument.
Où il retrouve ces termes et ce ton. Et ça reste une magie. Et c'est des chansons que la France, que le public a adoré, aime encore, oui, redécouvre encore. Parce que, je le dis de temps en temps, j'aime bien faire le petit côté vieux prof, mais Ferrat chante Aragon, mes enfants, c'est juste sublime. C'est à redécouvrir, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est mieux que souvent, là j'aime faire des amis, qu'un cours de récitation dans une école française. Il y a des moments, il faut faire sa culture soi-même. Aragon, Apollinaire, Rimbaud, tout ça, allez-y sans, comment ils disent pour l'alcool, sans
modération.
Sans modération.
Soyons immodérés.
Immodérés.
Et puis, ce qui est beau, non, mais ça, c'est l'écriture, c'est la littérature, c'est qu'au fond, on part d'un passé poétique, parce qu'en effet, Aragon revisite en quelque sorte la prosodie, la versification française. Ça donne de la musique au présent, au moment où elle est écrite, ou le disque. Et après, ça s'inscrit dans la mémoire nationale, on pourrait dire. Donc ça devient,
totalement,
ça, à divers titres, patrimonial. Et c'est pour ça qu'en 2022, on l'écoute encore.
Quand je disais tout à l'heure, mesdames et messieurs, qu'on était en compagnie de Marc Lambron, un des écrivains les plus délicieux de la littérature française, vous mentais-je ? À tout de suite.
Didier Barbelivien sur Europe 1. Ce que tu chantes, par Didier Barbelivien.
Nous sommes en compagnie de Marc Lambron et je ne m'en lasse pas encore pour deux ou trois chansons. Et ce choix, ah là là, Serge Reggiani. Et puis...
Et puis, et j'allais dire déjà, l'enfance se fait lointaine, comme un pays d'où l'on s'en va. Je ne vois plus qu'à peine le rivage, mon amour. Avec toi, j'appareille alors, pour autre part, pour autre chose, à bord de ma quarantaine. Et je t'emmène là-bas dans une image. Je t'aime, toi qui ne seras jamais une grande personne. Ne me quitte jamais. Je t'aime. Et puis, comme on va en province, quand on aura fait la vie, nous irons à la soixantaine, dans la maison que j'aime, en Provence, mon amour, mon amour. Nous aurons fait l'amour et puis d'autres garçons, bien avant les vieux jours et les vieilles nuits. Si tu es sage, tu auras tes images. Je t'aime, toi qui ne seras jamais une grande personne. Ne me quitte jamais. Je t'aime. Et puis, mais ça n'est pas demain. Il faudra que le soir vienne. je m'en irai sur le chemin où nous attend la chienne. Un pain, mon amour, mon amour. Quand je serai dans les nuages, c'est autre part, c'est autre chose. Encore, mais sans toi, tu sais, je serai seul là-bas, dans l'autre image. Je t'aime, moi, qui ne serai jamais une grande personne. Ne me quitte jamais. Je t'aime.
Serge Reggiani, et puis une merveille, comme beaucoup de chansons de Serge Reggiani, celle-là en particulier, qui est le choix de Marc Lambron, mon invité. Et il n'y a pas de choix hasardeux. C'est un texte, un magnifique texte de Jean-Loup Dabadie, une musique de Jacques Datin, parce que Dabadie a été extrêmement fidèle à Jacques Datin, où les deux ensemble, pour écrire des chansons pour Reggiani, parce que je vous rappelle, il y a eu Le Petit Garçon, il y a eu L'Italien, il y a eu beaucoup de chansons sublimes écrites par ces deux messieurs pour ce grand interprète. Alors, monsieur Marc Lambron,
alors,
parce que je serais tenté de te dire, et puis.
Et puis, j'allais dire, hélas.
Déjà. Hélas, oui.
Alors, bon, Reggiani, je l'ai rencontré une fois, toujours pour un entretien, peut-être 2 ou 3 ans avant sa mort. Je dirais assez affaibli chez lui, charmant en même temps. Bon, je me disais que j'avais devant moi l'acteur de Casque d'or, le régisseur du Guépard, une légende en somme du cinéma. Et puis, cette seconde carrière de chanteur, et avec là le rôle de Jean-Loup Dabadie. Alors Jean-Loup Dabadie, c'est une des tristesses pour moi de ces dernières années. Je le connaissais un peu, je l'ai beaucoup vu quand je suis arrivé à l'Académie à partir de 2015-2016, comme une sorte d'amitié. Et pour moi, il y a des amitiés qui peut-être, ou des vies dont on se dit qu'elles arrivent à leur terme, malheureusement, quand elles sont accomplies. Et vraiment, Jean-Loup, ça me laisse le sentiment de quelque chose qui a été violemment et prématurément interrompu. J'aimais son esprit, j'aimais sa noblesse, son élégance, sa drôlerie. Et je crois qu'il a quand même contribué, alors à travers ses chansons et les films qu'il scénarisait, qu'il dialoguait, notamment ceux de Sautet, à définir quelque chose des années 70.
Tout à fait.
De ce que pouvait être le vague à l'âme, d'ailleurs, de l'homme français dans les années 70. On voit très bien. Alors, par exemple, dans ses chansons, on voit que la quarantaine est un cap. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde a 19 ans jusqu'à la soixantaine, précisément.
Tu me fais rire, mais, il y a c'est tellement
les,
vrai,
les
ce
critères,
que tu dis.
Les critères d'âge, les virages dans une vie. Et puis, alors, à la soixantaine, on va dans la maison de Provence, etc. Bon. Il y a un autre temps. Il a très bien vu, je crois, les femmes, Jean-Loup. Il a très bien vu, par exemple, dans Vincent, François, Paul et les autres.
Leur force.
Voilà, ces femmes, c'est pas des femmes, c'est pas des féministes.
Non.
C'est plutôt des femmes de la moyenne bourgeoisie. Et il y a quelque chose de plus fort qu'elles qui fait qu'il faut qu'elles partent. Et ça, devant des hommes qui sont des hommes qui ont été forgés par la guerre, qui sont d'une virilité un peu déjà. Obsolète, un peu désuète et qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et il y avait une chose qui m'amusait assez, c'est qu'à l'Académie française, où il y a des places qui nous sont assignées, il était assis chaque semaine à côté de Giscard d'Estaing. Et je me disais, au fond, voilà deux hommes qui, à leur façon et de manière contemporaine, ont contribué finalement à façonner, à dessiner ce qu'auront été les années 70.
C'est tout à fait juste.
Qui étaient les années Giscard. Alors, c'était assez amusant parce que ça amusait beaucoup Jean-Loup. Et quand Giscard voulait prendre la parole, il était resté quand même assez monarchique. Alors, il avançait la main comme ça sur la table et Jean-Loup comprenait que ça voulait dire que le monarque voulait parler. Et alors, il levait la main à la place de Giscard pour lui épargner l'effort. Et ça l'amusait beaucoup d'être une sorte comme ça de chevalier signalétique de fanal de Giscard. Voilà. Voilà. Et j'ai été presque, comment dire, mais extrêmement attristé.
Oui, parce qu'il avait...
On était en larmes au téléphone avec Eric Orsenna.
C'est vrai. Et, voilà. Et Jean-Loup avait comment le culte... Enfin, c'était plus qu'un culte. Il aimait tellement faire plaisir à ses amis. Moi, je me souviens de dîner avec lui. Il avait l'œil pétillant. Il attendait... Et moi, j'attendais, mais j'osais pas lui dire « Bon, Jean-Loup, fais-moi Lino quand il fait les pâtes et tout dans la cuisine. »
Et il faisait Montand.
Je parlais Lino Ventura et Yves Montand. Et il en faisait tellement. Il était exceptionnel. Et j'ai compris à quel moment, pourquoi ce Jean-Loup, c'était forcément un grand scénariste, un grand dialoguiste. Parce que quand il jouait les scènes, ouais. qu'il me les jouait, qu'il a dû te les jouer,
ouais.
Et je me disais « Mon vieux, s'il montre à Montand comment on parle à Rosalie, là, dans César et Rosalie, où Sautet devait le faire aussi, c'est facile. Il aura mâché le boulot. Il jouait le truc. »
Ouais. Et il y avait une tendresse dans l'écriture de ces... C'est quand même un portraitiste de femme. Et par exemple, il n'a jamais travaillé avec Chabrol. Enfin, une fois, je crois. Il a travaillé une fois avec Chabrol. Mais Chabrol est quand même un cinéaste du poulet au vinaigre, précisément,
oui, oui, oui.
De l'acidité. Et il n'allait pas de...
Avec même un peu de cynisme, quelquefois. Ouais. Jean-Loup n'était pas comme ça.
Non, il n'était pas comme ça. Non, il y a quelque chose de... oui.
C'était comme dans ses chansons, Marc. Il fallait qu'il y ait des femmes, des voilà. enfants, des maisons,
ouais.
Des rivières qui passent,
des
trucs...
Des femmes vénérées dont on ne comprend pas tout à fait ce qu'elles sont en train de devenir. Et là, il était bon. Il adulait Véronique, hein, et sa dernière épouse.
Ah ben c'est sûr.
Et,
ouais.
et elle adorait. Elle adorait. C'était un vrai couple. Il y avait sur le pommeau de son épée l'académicien, et il y avait un dessin, enfin une gravure du visage de
Véronique.
De Véronique. Mm. Quand il empoignait la garde, il saisissait le visage de son aimé. Voilà.
Oui, ça me fait bizarre d'en parler au passé, parce que quand j'ai Véronique au téléphone, comme toi, j'ai l'impression qu'ils vont venir dîner la semaine prochaine. Ça me fait très bizarre de plus
ouais.
voir Jean-Loup.
Oui, oui, oui.
Franchement.
Oui, oui.
Je me souviens, avec Jean-Marc Roberts, quand on était ouais, adolescents, oui. et c'était notre idole, quoi. Il y en a qui couraient après Mike Brandt ou Frédéric François. Nous, on courait après Jean-Loup Dabadie. On attendait, il sortait d'RTL, il allait vers Europe 1 avec ses écharpes multicolores. Et nous, on le guettait.
Ah oui.
On était à fond plongé dans les années Dabadie. Il n'y a pas d'autre mot, parce que quand il ne nous fascinait pas par... Un film, l'écriture d'un film, c'était l'écriture des chansons. Reggiani, c'était pas tellement notre génération, bien qu'on était très attentif à ce qu'il chantait, mais Michel Polnareff, c'était en plein dedans.
Eh oui.
Et il a écrit des chansons sublimes
pour
Michel Polnareff et Julien Clerc.
Ma préférence, oui. Mmh. Oui, oui. Ah bah, il y avait une courtoisie. Enfin, presque. Moi, je l'ai vu devant une très jolie femme. Il lui dit pas, t'es trop belle. Il lui a dit « Tu es la fille dont tous les garçons de la classe étaient amoureux. » Voilà.
Oui, parce qu'il ramenait toujours à une équipée.
Oui,
et
oui,
puis il aimait
oui.
les copains.
Oui,
il
oui.
était très proche de... Il aimait ça, les grandes tablées, les trucs. Comme on voit dans les films de Sautet, il n'y avait pas de décalage entre leur vie, leur écriture, leurs sentiments, leur
non,
quotidien.
Il y avait un rapport profond à l'amitié. Et il y a un mystère dans l'amitié ou dans ceux qui le pratiquent comme un art, précisément. Et Jean-Loup, c'était ça aussi, c'était l'art de l'amitié.
Oui, parce qu'il aimait tellement nous faire plaisir. C'est vrai, quand je me souviens de... Il aimait nous faire rire, nous faire plaisir, nous séduire, nous avoir là, de savoir... Il avait toujours des mots, même, comment dire... On pouvait penser que c'était exagéré, sa
oui,
gentillesse.
C'était un anecdotier, quoi.
Voilà.
Il saisissait des scènes. Je me souviens comment il avait raconté, par exemple, qu'un soir, il dîne à Paris avec Mastroianni et Catherine Deneuve. Et le lendemain, il devait aller à Rome, et Mastroianni aussi. Et Mastroianni le fait dîner avec son épouse, dont il n'a jamais divorcé, dont Jean-Loup me dit qu'elle n'était pas la plus belle des femmes et qu'elle jouait obstinément dans d'obscures pièces d'avant-garde. Et alors, il y avait comme une sorte de stéréo temporel rapproché, c'est-à-dire la veille, Mastroianni de neuf, le lendemain, Mastroianni et l'épouse romaine. Et ça, c'est comme une scène d'un film de Jean-Loup. Et à ses obsèques, Nicolas Bedos a fait une chose étonnante. C'est que le cérémonial était un peu compassé, il faut le dire. Et Nicolas Bedos a pris la parole après Philippe Labro et il a dit « je vais faire quelque chose qui ne se fait pas, mais je vais le faire quand même ». Il a sorti son téléphone portable, qu'il a porté près du micro, et il a fait entendre « Ma préférence ». Et là, toute l'église a repris la chanson comme si c'était un hymne
magnifique
de sortie de messe. Et avec ce piratage, en quelque sorte, Nicolas Bedos, qui était son
filleul,
qui était son filleul et qui, le malheureux, a perdu la même année son père
et son parrain,
son filleul et sa marraine, qui était Gisèle Halimi. Et alors voilà, ça a fini. Il me disait aussi qu'il y a une scène assez drôle. Un de ses fils vit avec une japonaise. Et alors il me dit que quand il venait avec sa japonaise et qu'il y avait des dîners, on traduisait pour la japonaise l'historiette qui venait d'être racontée. Et elle riait retardement. Et les autres convives étaient déjà partis dans une autre histoire. Et ça, il aurait pu l'écrire comme une scène de film. Je crois d'ailleurs qu'il y a un film de Jean Becker, alors je ne sais pas quel en est le sujet, dont le scénario a été écrit par Jean-Loup à peu de temps de sa disparition et qui est tourné, qu'on va voir un ultime film dialogué par Jean-Loup Dabadie.
Formidable. On pourrait passer l'après-midi à parler de lui, parce que les anecdotes nous reviendraient. Mais je suis heureux parce que souvent, je dis à Véronique, on retrouve dans le choix des invités très souvent une chanson de Jean-Loup. Et moi, ça me fait plaisir. À tout de suite avec toi, Marc Lambron.
Didier Barbelivien sur Europe 1.
Europe 1.
Dis-moi ce que tu chantes, par Didier Barbelivien.
On retrouve mon invité d'aujourd'hui, Monsieur Marc Lambron. Il y aura deux chansons de deux auteurs-compositeurs aussi formidables. C'est pas du tout le même univers, vous allez découvrir, vous allez voir et surtout entendre. Mais c'est top. Monsieur Serge Gainsbourg, Initials Bibi.
Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Sels. Que des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. Jusques en haut des cuisses, elle est potée, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de guervin dans les cheveux.
Be initial, be initial, be initial.
À chaque mouvement, on entendait les clochettes d'argent de ses paniers. Agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot.
Le mythique Initials Baby de Serge Gainsbourg, un choix de Marc Lambron. Alors dis-moi tout, Marc. Why?
Alors plusieurs choses. D'abord parce que pour moi, Gainsbourg, c'est une sorte de mutant. C'est quelqu'un qui a eu des phases et des époques. Donc quand on part des cabarets rive gauche et qu'on fait des choses très belles comme la Javanaise ou le Poissonneur des Lilas.
Exact.
Mais qu'ensuite on passe à Gainsbourg, percussion, j'ai vu New York qui fait ça, etc. Donc là, d'un seul coup, une musique qui s'africanise presque, enfin, ou qui se jazzifie. Bon, plus tard, il y aura le reggae et même le funk avec Love on the Beat.
Mais et entre-temps, il y aura eu la pop musique.
Et entre-temps, il y a la pop. Ça, c'est le Gainsbourg pop, c'est le Gainsbourg 66-67, qui écrit pour Anna Karina, qui écrit évidemment pour Brigitte Bardot, le côté Harley Davidson, le côté bubblegum, le côté pop. Alors, cette chanson est très belle, parce que d'abord, il y a quand on regarde le texte peut se lire. Sans la musique, c'est très beau. C'est comme un poème, c'est un poème. Mmh. Et même, ça ressemble à ce qu'on appelait à la Renaissance un blason, c'est-à-dire un poème qui détaillait, qui chantait les détails du corps de la femme aimée. Alors là, il va y avoir une ceinture. Enfin, on est en pleine époque, en pleine époque pop. C'est le moment où elle va tourner un western à Almeria, qui était devenu le studio des western spaghetti. Et elle tourne un western qui s'intitule Chalaco, avec Sean Connery, qui n'est pas ce qu'elle a fait de meilleur.
Non.
Et donc, elle part, il est à distance, et depuis Paris, il lui envoie cette élégie à Brigitte, qui finit précisément par le mot Almeria.
Almeria.
Alors, il y a ça. Après, il y a la couleur musicale, c'est-à-dire que c'est le moment où il va commencer à enregistrer à Londres. Il a ses musiciens, il a ses arrangeurs, il y a même un bout documentaire où on le voit. Enregistré avec les
on
violons.
On voit la séance d'enregistrement de ça, absolument.
Avec les violons. Et puis, ça va aller après vers Mélodie Nelson, donc là, Jean-Claude Vanier, et même L'Homme à la tête de chou. Tout ça est fait avec ces musiciens londoniens, mais toujours dans une couleur qui maintient le français, parce que au fond, l'anglais, il l'a utilisé comme ça, de manière un peu ornementale ou un peu ironique dans quelques-unes de ses chansons, quoi. Comic strip, si on veut.
C'est-à-dire, enfin, il met des touches pour le son.
Il en met pour les assonances. Il en met pour le pittoresque, mais c'est toujours pris quand même dans la gangue de quelqu'un qui, en réalité, adulait la littérature, aurait voulu être peintre et tenait à considérer la chanson comme un art mineur, jusqu'à la déconsidérer. Enfin, il y a Il tenait à ça, il ne se flattait pas.
Est-ce que c'était pas quand même peut-être une posture, oui, une coquetterie de dire... parce que je repense à des chansons comme L'Anamour et tout ça reste des trucs comme des chefs-d'œuvre, des chansons comme ça.
Ah ben, je pense qu'il y a une simplicité dans la...
Oui. Elle n'a rien de mineur, quoi. Non,
puis c'est les paroles qui...
Je suis venu te dire que je m'en vais, on peut voilà. L'écouter, enfin bref.
C'est des paroles qui impriment. Comme on dit maintenant, et c'est un homme de muse, parce qu'au fond, le nombre de chansons incalculables qu'il a écrites,
inspiré, oui,
qu'il a écrit
pour des femmes.
Mais pas seulement France Gall, pas seulement Greco, Anna Karina, Bardot, Jane Birkin, évidemment, bon, et beaucoup d'autres. Hein. C'est un façonnier en même temps, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui habille la femme avec des chansons.
Des costumes sur mesure.
Un tailleur de chansons sur mesure pour jolies femmes.
C'est le Cardin, le Pierre Cardin de l'époque.
Oui, alors...
Cardin avait beaucoup de succès.
Un peu Cardin, un peu Courrèges.
Un peu Jean Bouquin.
Un peu...
Ah, on a oublié Jean Bouquin.
Alors Jean Bouquin, Bardot, Saint-Tropez.
Exactement.
Bien sûr, là, la mode hippie à la française et à la tropézienne qui va avec les minimaux, qui en effet, avec les bandeaux dans les cheveux, avec les robes gitanes, avec les pieds sur la plage,
colliers, là, de...
les longs colliers, les festivals pop. Et d'ailleurs, une pop française qui cherche à l'époque, qui a un peu existé, voilà, avec des groupes comme Martin Circus, comme Zoho, comme, y a eu ça aussi.
Il y a eu ça, Triangle, il y en a eu beaucoup.
Il y a eu Triangle à ce moment-là. comment s'appelle ce chanteur du Havre qui est toujours là, Little Bob Story. Bon, il y a eu un rock français qui n'est pas forcément toujours le plus probant. Et Gainsbourg, il est en lisière, mais il reste ancré dans cette francité.
Et je suis étonné parce que je trouve que c'est un hymne d'amour à l'amour perdu. Mais à l'amour perdu, c'est, comment dire, c'est presque un truc de voyeurisme pour l'auditeur parce qu'il nous raconte la beauté de cette muse qui s'en va. Il nous raconte à quel point elle est incontournable. Jusque dans le détail, elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de Guerlain dans ses cheveux.
Oui, avec aussi quelque chose d'assez psychédélique. Il cite un roman un peu à la Boris Vian de Louis Powells,
oui.
L'amour monstre de Powells, parce que c'est quand même l'époque aussi des femmes lianes. C'est l'époque... les épouses de Vadim, au fond, Jane Fonda, Bardot, avec parfois quelques déformations psychédéliques dans la perception des choses. Ou Barbarella, par exemple, ça me fait penser aux bandes de Jean-Claude Forest ou bandes dessinées de Forest.
Mais c'est écrit un peu comme
Ou de Crépax.
C'est
de
coloré Crépax, comme une bande dessinée.
Oui, il y a une coloration par le verbe et par la couleur musicale. Qui fait que ça s'inscrit tout à fait dans cette époque. C'est 67, hein, c'est l'année de Sgt. Pepper.
Ouais, 67-68, ça va sortir en 68.
Et c'est l'année où il enregistre « Je t'aime moi non plus » dans la version Bardot, mais qui ne va pas sortir tout de suite, que nous connaîtrons des années plus tard. Oui, c'est la transition Bardot-Birkin.
Je vais te faire une transition vers un autre auteur-compositeur qui est ton choix aussi. Rien à voir avec Gainsbourg, mais tellement de sensibilité au cœur de cette chanson. C'était sur son premier album et ça a toujours été ma chanson préférée. Michel Berger, Pour me comprendre.
Pour me comprendre, il faudrait savoir qui je suis. Pour me comprendre, il faudrait connaître ma vie, et pour l'apprendre, devenir mon ami. Pour me comprendre, il aurait fallu au moins ce soir pouvoir surprendre le chemin d'un de mes regards, triste mais tendre, perdu dans le hasard. Je l'ai connue toute petite dans les bras de sa grand-maman. Dommage, dommage, j'aimais tellement son visage. Comprendre, il faudrait savoir le décor de mon enfance, le souffle de mon frère qui dort, la résonance de mes premiers accords. Pour me comprendre, il faudrait connaître mes nuits, mes rêves là. Quand vient le jour, la peur d'affronter la vie, il y a peut-être quelque part un bonheur dont j'aurais eu ma part. Dommage, dommage, j'aimais tant ce paysage. l'amour le vrai. Vous comprenez le grand amour et savoir qu'après, à quoi sert de vivre encore?
Michel Berger, pour me comprendre, le dernier choix de mon invité Marc Lambron. Et raconte-moi en quelles circonstances tu as connu cette chanson. Parce que moi, je m'en souviens, je pourrais prendre 10 minutes, un quart d'heure à raconter ça, tellement c'est fou.
Probablement, je ne l'ai pas entendu à l'époque, postérieurement. De Michel Berger, j'avais un peu l'image d'un... Alors, je ne dirais pas que c'est un Stevie Wonder à la française, mais enfin, il a 15 ou 16 ans quand il est sur la célèbre
c'est
photo...
Vrai.
De Jean-Marie Perrier, de la photo de Salut les copains. Donc c'est quelqu'un qui est très, très, très tôt dans sa vocation.
Impliqué
dans sa vocation. Ensuite, quand on écrit une chanson, quand on signe une chanson qui s'intitule Pour me comprendre, ça veut dire qu'on n'est pas compris. Et à mon avis, il y a un destinataire de cette chanson, c'est son père. Car il était le fils d'un éminent professeur, le professeur
Burger,
d'ailleurs académicien, et qui a toujours regardé son fils comme un
saltimbanque.
Un saltimbanque, et vraiment un objet intellectuel non identifié. Et donc je pense que c'est aussi une sorte de supplique ou d'adresse au père pour dire, voilà, j'aimerais être compris, et voilà qui je suis. Bon, c'est une chanson très belle en dégradé, comme ça, en dégradé chromatique, avec les enregistrements, les arrangements, pardon, qui viennent derrière. Il y a cette phrase qui me touche beaucoup quand il dit le souffle de
mon frère qui dort.
De mon frère qui dort. Moi,
puis on rentre dans l'intime de la vie d'un être.
J'avais un frère, je l'ai perdu.
Je l'ai perdu.
Et donc là, il y a comme une ligne qui comme quelques mots qui vont vers le club des frères
disparus.
Des frères disparus. Donc je l'entends comme ça. Et au fond lui-même, j'ai l'impression qu'il a sans le savoir. Comme intuitivement écrit des chansons qui ressemblent à des requiem, au fond, comme s'il avait déjà préparé sa propre.
C'est vrai, beaucoup, ça lui est arrivé.
Disparition.
Diego. Je pense à des chansons comme ça.
Le Paradis Blanc, qui est une.
Paradis Blanc.
Derrière, ouais. Comme s'il y avait quelque chose qui était. Il est quand même mort très jeune. Et comme s'il avait, inscrit, comme s'il avait écrit finalement des chansons d'adieu à lui-même et au monde. Et je crois que c'est ce qui fait la force aussi de cette sorte de nostalgie par avance, si j'ose dire. Et puis alors, il y a un peu comme Gainsbourg, finalement. Les textes, les chansons qu'il écrivait pouvaient être très plastiques, c'est-à-dire habitées, appropriées par d'autres artistes. Alors, on sait toute l'importance de Véronique Sanson, et puis de France Gall. Mais par exemple, quand on prend Diego libre dans sa tête et qu'on l'entend chanter par Michel Berger, c'est presque une petite rengaine.
Oui, France aussi, et Johnny en fait. Hein,
alors quand il arrive,
une cathédrale.
Lui, il en fait une espèce de cathédrale sonore avec des guitares saturées et il passe en puissance. Quoi. C'est le super taulier de la chanson. Et c'est ça aussi, je crois, un compositeur de chansons. C'est quelqu'un qui... dont l'héritage finalement survit parce que d'autres viennent le reprendre. Alors, tout le monde n'a pas la chance au fond d'être revisité, d'avoir un répertoire, mais c'est quand même beaucoup le cas de Michel Berger.
C'est vrai. Et qu'est-ce qu'on va garder de cet entretien d'un académicien français?
Ce qu'on va garder,
Marc Lambron,
c'est toutes les chansons que j'aurais aimé passer et que j'ai pas pu passer, par exemple. Il y a pour moi une petite injustice sur Trenet, que j'aime beaucoup, sur Polnareff, que j'aime
c'est
beaucoup,
vrai.
Et d'autres.
Mais en tout cas, je ne sais pas si cette émission, parce qu'on arrive à la fin, a aidé à te faire comprendre, mais à mieux te connaître, ça c'est sûr, et à t'aimer, j'en suis certain. Merci d'être venu.
On est lu par des chansons autant qu'on les écoute.
Merci d'être venu, Marc Lambron.
À
très vite.
Didier Barbelivien sur Europe 1. Dis-moi ce que tu chantes.
Et voilà, c'est la fin de Dis-moi ce que tu chantes. Dis-moi ce que tu chantes a été réalisé par mon ami Rémi Duprat. C'était documenté par Benoît Valentin et c'était porté à mes côtés par Maryse Jacquet. Le générique, lui, n'a pas changé. C'est toujours René Aubry.